France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Science Publique. Nous vous proposons le dernier volet de la série d'émissions de Culture Science consacrée pendant cette semaine au thème de la catastrophe à l'occasion des 30 ans de l'accident de Tchernobyl et à un peu plus de 5 ans de celui de Fukushima. Comme toujours, vos réactions sont vivement attendues sur le site de Science Publique au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Catastrophe nucléaire, la nature peut-elle survivre aux radiations ? En matière de catastrophe, le nucléaire se distingue à la fois par le caractère invisible de la pollution engendrée par un accident et par la durée de la contamination. Il est notable que les débuts de la reconstruction des villes d'Hiroshima ou de Nagasaki a commencé seulement 2 ans après l'explosion des bombes atomiques américaines. En revanche, 30 ans après le 26 avril 1986, la zone d'exclusion des 30 km autour de Tchernobyl n'est toujours pas habitable par l'homme. Que se passe-t-il dans ce laboratoire à grande échelle de l'impact de la radioactivité sur la nature? Autour de la centrale de Tchernobyl, toute vie a-t-elle disparu? Des animaux et des plantes sont-ils capables de résister aux radiations? Comme semble le montrer le documentaire intitulé « Tchernobyl, une histoire naturelle » réalisé par Luc Riolon et diffusé sur Arte en 2010. Que nous apprennent les catastrophes de Tchernobyl et de Fukushima sur les dangers du nucléaire civil au moment où l'avenir des centrales françaises reste encore très flou? C'est le sujet de notre débat dans Science Publique. Nous recevons aujourd'hui en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio, Galia Kerman, historienne, journaliste et spécialiste du monde russe et ex-soviétique, auteur de « Traverser Tchernobyl », un récit personnel qui retrace 20 ans de voyage dans la zone interdite de Tchernobyl et qui est édité par Premier Parallèle en 2016. Yves Lenoir est ingénieur de formation, président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus et auteur de « La comédie atomique, l'histoire occultée des dangers des radiations » publié par La Découverte en 2016. Anders Moller est chercheur au CNRS au laboratoire Écologie, Évolution et Systématique. Il mène depuis 25 ans des études sur l'impact écologique de l'accident de Tchernobyl et il travaille aussi sur celui de Fukushima. Et enfin, Yannick Monger est président fondateur du groupe Symbiom et prospectiviste spécialisé dans la crise bioclimatique et auteur du thriller Résilience aux éditions de La Martinière en 2016. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions et vos témoignages sur le site de Science Publique tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. En 2006, un rapport de l'ONU conclut un bilan surprenant de l'accident de Tchernobyl. 47 morts chez les 800 000 liquidateurs de la centrale et 5 000 cas de cancer chez les enfants les plus exposés en Ukraine, Biélorussie et Russie, dont 15 décès seulement. Alors on verra que justement la question du bilan est très complexe et qu'il est très difficile, même aujourd'hui, 30 ans plus tard, d'avoir des informations précises sur les impacts sanitaires de l'accident de Tchernobyl. Anders Müller, bonjour.
Bonjour.
Donc Tchernobyl est devenu un laboratoire de l'impact de la radioactivité sur la nature. Quel type de travaux menez-vous sur ce site, donc de la zone d'exclusion autour de la centrale, depuis que vous vous y rendez, c'est-à-dire depuis 25 ans?
Le raison principale pour travailler dans cette zone fortement contaminée, c'est que on peut vraiment étudier ce qui se passe avec les êtres vivants en termes de leur réponse à des mutations, c'est-à-dire le changement des séquences d'ADN dans leurs cellules. Et il y a des études qui montrent que le taux de radiation s'est augmenté par un facteur 2 à 20 chez différentes espèces des êtres vivants. Et donc il y a une forte augmentation de ce changement. Et il y a des conséquences graves de ces effets-là.
D'accord. Et ça veut dire que vous avez pu accéder à cette zone depuis 25 ans. On parle toujours de la Russie, surtout de l'époque, comme un pays pas forcément très ouvert.
Au début, c'était très très difficile parce que quand j'ai eu le premier visa pour rentrer en Ukraine, J'ai parti sur le terrain avec un étudiant de Kiev. Et dans notre passeport, il n'y a pas des informations sur le site où on voudrait travailler. Mais nous avons parti quand même et nous avons utilisé par exemple une tente pour dormir sur le terrain. Et après une semaine ou quelque chose comme ça, nous avons terminé nos recherches et puis j'ai publié le premier article scientifique dans ce domaine.
Voilà, donc c'était pas forcément très accueillant, mais vous avez réussi quand même à franchir les obstacles pour vous rendre sur place.
Oui, même si c'était peut-être pas complètement légal ce que j'ai fait au début.
Très bien, on y reviendra sur évidemment vos observations, les résultats que vous avez pu obtenir. Yves Lenoir, bonjour.
Bonjour.
Donc votre livre, La comédie atomique, porte justement sur les dangers des radiations et sur votre thèse d'une sous-estimation de ces dangers. Votre enquête démontre qu'il est bien difficile, comme je le disais en introduction, de se faire une idée sur l'impact réel des radiations sur l'homme. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avancer un chiffre ou une fourchette d'impact sur cet impact?
Depuis bien avant Tchernobyl, il y a un dialogue de sourds entre les institutions de l'ONU qui dictent la vérité sur les effets des radiations atomiques au sein du comité scientifique des Nations Unies sur les effets des radiations atomiques et un très grand nombre de publications de médecins et de scientifiques qui ont étudié les corrélations entre exposition aux radiations et certains types de maladies. Tant qu'il y aura une tutelle qui est absurde, parce qu'aucune science n'est soumise à une tutelle de ce genre. Il n'y a que l'effet des radiations qui est soumis à la tutelle d'un comité qui n'est contrôlé que par lui-même. Parce que, bon, on dit qu'ils sont nommés par les États, mais la reproduction de ce comité se fait, on l'imagine très bien, un délégué va partir, il dit à son premier ministre, nommez un tel. Et on a donc, depuis le début, depuis 1955, on a un comité dont l'objectif, et on le voit, mon livre le décrit, dont les deux objectifs sont favoriser le développement de l'usage des radioéléments et des radiations en médecine, et tout faire pour promouvoir le développement de l'énergie atomique, et quand il y a un accident, pour le préserver. Et c'est ce qu'on observe avec le rapport dont vous parlez.
Le préserver, c'est-à-dire ?
Préserver le développement de l'énergie atomique, voilà. Donc dénier les effets des radiations.
Très bien. Alors Yannick Monger, bonjour.
Bonjour.
Votre dernier livre donc s'appelle Résilience. C'est un thriller de science et de politique fiction, on pourrait dire.
Oui, technoscience, oui.
Voilà. Alors sans dévoiler l'intrigue, on va être très prudent sur ce sujet-là parce que ça serait très dommage. On peut dire que l'histoire nous plonge dans une crise d'après-accident nucléaire. Voilà. D'où est venue l'idée du livre déjà, le point de départ un peu
C'est vrai qu'au début, moi, j'ai plus travaillé sur le réchauffement climatique, ces problématiques-là, mais forcément, après, vous en venez à travailler sur les problématiques énergétiques.
Donc, vous avez fait un livre qui s'appelle Gaïa.
J'ai fait un livre qui était Gaïa. À la Martinière, j'ai fait plusieurs livres qui étaient plutôt d'images, sur la simulation, de manière photoréaliste de l'avenir de la planète, en prenant les rapports, entre autres, du GIEC, en essayant pour que ça soit plus abordable par la population, mais aussi les dirigeants et les industriels, projetés par l'image ce à quoi la Terre peut ressembler dans quelques années. Là, le roman, c'est un autre type de support, mais qui, je trouve, se prêtait bien pour expliquer le nucléaire, dénoncer les risques et projeter finalement le public. Si demain vous avez un accident à Nogent, à Cattenom, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en France? Faire vivre pour que les gens soient vraiment touchés, parce que je me suis rendu compte que finalement Fukushima, pour beaucoup de gens, c'est très loin. Tchernobyl, c'est loin, et puis c'était il y a longtemps, 30 ans. Beaucoup de gens croient que c'est terminé. Et tant qu'ils ne sont pas touchés, finalement, eux-mêmes, je me suis dit, ils ne réagissent pas au nucléaire. Les Français ne réagissent pas, ils ne comprennent pas le danger. Donc là, l'avantage du roman, c'est que j'ai pu projeter, voilà, vous vivez en direct l'accident nucléaire, entre autres sur tout le territoire. Qu'est-ce qui se passe? La désorganisation des services de l'État, donc en m'entourant avec des spécialistes, d'anciens ministres, des personnes des services de renseignement, des ingénieurs du CEA, pour décrire la panique qu'il y aura, en fait, réellement. Et puis en m'inspirant des accidents qui sont déjà arrivés à Fukushima et Tchernobyl, entre autres.
Très bien, on va revenir effectivement sur ce scénario un peu du futur, sachant que, comme vous le dites, l'impact des accidents est de courte durée, au moins en France, c'est-à-dire que les sondages sur l'opinion des Français a retrouvé l'avant Fukushima en quelques mois, voire un an à peu près.
Il y a une lobotomisation du public, c'est vrai que les personnes croient vraiment que le nucléaire s'est sécurisé en France, que ça ne peut pas arriver, que ça arrive ailleurs mais pas chez nous. Ils pensent que c'est vraiment de la science-fiction, que ça ne peut pas arriver, c'est tellement dingue qu'ils ne veulent pas l'accepter.
Très bien, donc après l'essai et le roman, voici le récit par Galia Ackermann, bonjour.
Bonjour.
Donc votre livre est très original puisqu'il décrit vos voyages, vos visites dans cette zone interdite de Tchernobyl. Pour quelles raisons avez-vous décidé de vous rendre déjà dans ce lieu avant même de prendre la décision de le raconter dans un livre ?
Vous savez, ça fait 18 ans que je vais régulièrement dans ces zones contaminées, pas seulement dans la zone interdite, mais aussi dans des zones contaminées en Ukraine et en Biélorussie. Et ici est présent Yves Lenoir, de l'association Les Enfants Biélorusses. Donc il sera peut-être content d'entendre que dans mon livre, je raconte que le moment qui a déclenché réellement mon adhésion à ce sujet était ma rencontre avec le professeur Nesterenko, Vassili Nesterenko, académicien biélorusse, qui était considéré comme une sorte de Sakharov, qui s'est consacré à la protection des populations atteintes. C'est avec lui que j'ai fait des premiers voyages, c'est grâce à lui que j'ai publier mes premiers papiers journalistiques. Et ensuite, ça s'est enchaîné parce que j'ai été commissaire d'une grande exposition sur Tchernobyl à Barcelone en 2006. Après, j'ai écrit déjà deux livres sur Tchernobyl. Et ensuite, c'est un sujet, une fois qu'on commence à l'étudier, avec tous les liens que j'ai, avec tous les contacts humains, toutes les personnes dont je suis la trajectoire, c'est un sujet qui ne m'a plus lâché. Et donc, il y a quelques années, j'ai habité pendant une semaine dans la ville de Tchernobyl. Et j'avais des conditions absolument extraordinaires parce que j'ai trouvé quelqu'un de compatissant dans la direction de la zone qui m'a permis d'aller absolument partout dans la zone interdite et de rencontrer tous les personnels que je voulais, tous les personnels qui habitent et travaillent dans la zone. Et donc, en quelque sorte, oui, j'ai un regard assez unique et le lieu est unique.
Alors effectivement, c'est un lieu tout à fait unique sur la planète. Et j'ai mentionné dans l'introduction ce documentaire qui s'appelle « Tchernobyl, une histoire naturelle ?», réalisé par Luc Ruyolon et qui a été diffusé sur Arte en 2010 et qui a probablement frappé beaucoup des spectateurs qui l'ont vu. Parce que il montre une zone interdite, la forêt rouge et d'autres endroits de ce site, peuplé d'animaux, avec une végétation luxuriante, avec des espèces rares comme les lynx qui recolonisent cette zone, avec également des chevaux sauvages, les fameux chevaux de Przewalski, qui ont été introduits un peu pour une expérience et qui en fait se sont reproduits et se développent. Il y a beaucoup d'élans, de cerfs, enfin énormément d'animaux. Et cette enquête laisse entendre que finalement, c'est tout juste si le bilan n'est pas positif pour la nature autour de Tchernobyl, le départ de l'homme ayant libéré beaucoup d'espace et beaucoup de possibilités d'installation des animaux. Et finalement, la radioactivité ne semble pas empêcher toute vie. Alors déjà, peut-être, votre avis à vous, Anders Møller, qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez vu ce documentaire qui est troublant. Quel est votre avis?
C'est troublant pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde, mais...
Oui, c'est troublant pour le public, mais c'est au public que s'adresse le documentaire.
Oui, peut-être même c'est troublant pour les animaux qui vivent dans cette zone. Mais le chose peut-être plus étonnant, c'est que il y a des séquences dans cette documentaire qui ne sont pas filmées sur site, et dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. C'est des séquences d'essais filmées en Allemagne. Il y a aussi des autres séquences qui ne sont pas produites en Ukraine. Et donc, de faire ça sans indiquer dans un documentaire, c'est très troublant pour moi.
Alors, effectivement, ça donne l'image presque d'un parc animalier, hein. C'est-à-dire, il y a une profusion quand même d'animaux. Et ce qui est troublant, c'est de montrer, par exemple, que les rats, semble-t-il, ont réussi à surmonter les effets de la radioactivité, qui sont capables de vivre et de se nourrir, de se reproduire dans des zones irradiées, dans la fameuse forêt rouge, par exemple, qui est donc une des zones touchées encore aujourd'hui très fortement par la radioactivité.
Oui. C'est vrai, mais à l'autre côté, par exemple, il y a une grande partie des oiseaux et des petits mammifères avec cataracte dans leurs yeux. C'est une condition extrêmement rare chez les animaux sauvages. On ne trouve pas ça à Paris, par exemple. Et donc, oui, sur la surface, on peut dire, oui, ça me semble, tout va bien. Mais en fait, c'est pas le cas. Et si on regarde la présence des autres anomalies ou des autres maladies, il y a une grande fréquence des tumeurs chez les animaux sauvages sur le terrain. Et c'est pas quelque chose qu'on voit régulièrement. La raison est très simple, parce que les animaux malades sont mangés par les prédateurs tout de suite. Et donc, si on est dans la zone d'exclusion à Tchernobyl, on peut voir des animaux vraiment malades, ça veut dire, oui, peut-être il y a beaucoup d'animaux, mais ils ont une condition de santé très très faible.
Alors, on va y revenir, mais déjà, peut-être un petit tour de table sur ce film, pour ceux qui l'ont vu. Yves Lenoir voulait intervenir.
Oui, je veux dire que les animaux se cachent pour mourir. Alors certes, comme vient de le dire Anders, les prédateurs mangent l'échelon inférieur quand il va pas bien. Mais les prédateurs se cachent pour mourir. Donc, quand on va dans la zone interdite, on ne peut pas les voir. Ils se sont cachés pour mourir.
Oui, alors effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup d'animaux vivants. Ceux qui sont malades, effectivement, ne sont pas montrés. Ceux qui sont affaiblis, non plus. Oui, Anders Moller ?
Je ne suis pas d'accord et je peux montrer facilement. Parce que maintenant, c'est possible pour les touristes d'entrer dans le zone d'exclusion à Tchernobyl. Et un des plaintes principales par les touristes qui viendra, c'est qu'on ne voit rien. Parce qu'ils ont vu ce film et ils ne sont pas contents. Ils veulent l'argent retour. Et donc, les gens responsables pour cette activité touristique, ils ont créé un petit zoo dans le village de Tchernobyl avec un sanglier, il y a aussi un loup, je crois, un cerf, pour donner l'option pour les visiteurs au moins de voir trois animaux.
Galia Kerman, par rapport à vos visites à vous, qui êtes aussi avait été très souvent dans la zone d'exclusion.
Oui, j'ai vu ce petit zoo des pompiers. En effet, il y avait aussi un renard malade. Je me souviens toujours d'une phrase qui m'a été dite une fois par l'académicien Dimitri Grodzinski, qui était l'un des responsables donc de la commission de l'Académie des sciences de l'Ukraine pour la liquidation de la catastrophe de Tchernobyl. Il m'a dit quelque chose qui m'a marqué pour toujours. Il m'a dit, vous savez, la nature surmonte toujours les dégâts parce que les individus, qu'ils soient plantes, animaux ou humains, tout simplement meurent ou deviennent stériles. Et donc, la nature, tôt ou tard, répare les aberrations chromosomiques et reprend ses droits. Mais si on parle en termes de destin individuel, ces femmes qui n'ont pas eu d'enfants, ces femmes qui ont donné naissance à des enfants malades, ces enfants qui sont morts de maladies qui sont propres aux gens du troisième âge, ces liquidateurs qui meurent très tôt, d'un arrêt cardiaque subit ou d'une autre pathologie de santé, tout cela sont des tragédies. Et je pense que tout simplement, les humains, ils savent parler, les animaux et les plantes ne savent pas parler, mais la tragédie est là, la nature tôt ou tard peut-être corrigera, mais le drame est présent.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albert-Gonty.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui autour de la question catastrophe nucléaire, la nature peut-elle survivre aux radiations, avec nos invités Galia Ackermann, historienne, journaliste et spécialiste du monde russe et ex-soviétique, Yves Lenoir, ingénieur, président de l'association Enfants de Tchernobyl Bélarus, Anders Moller, chercheur au CNRS, spécialisé sur l'impact écologique des accidents de Tchernobyl et de Fukushima, et Yannick Monger, président et fondateur du groupe Symbiome et prospectiviste spécialisé dans la crise bioclimatique. Justement, Yannick Monger, peut-être une réaction à ce... Alors, je crois que vous ne l'avez pas vu, ce documentaire.
Moi, je vois les photos, comme tout le monde, oui. Effectivement, qu'on a fait passer au grand public, de cette nature, de cette fausse résilience, de cette carte postale qu'on vend. Mais c'est une carte postale. C'est très, très, très dangereux, en fait, parce que là, on met dans l'esprit des gens, on leur fait croire que la vie peut reprendre comme ça, malgré la catastrophe nucléaire. Ils ne voient que le dessus, la surface, effectivement, comme on le disait tout à l'heure, mais ils ne voient pas tout ce qui se passe derrière. Effectivement, les animaux, comme les végétaux d'ailleurs, sont affectés très durement par la radioactivité, et les êtres humains. Moi, je peux vous dire que j'ai des amis qui sont aussi sur Fukushima, et ils me racontent, et je vois les photos des animaux déjà, il y a déjà des études scientifiques qui ont été faites, l'impact, il est là, il est réel, la mortalité est là, mais il y a effectivement une sorte d'omerta, on veut pas voir, quand il y a un cancer, on dit bah non, c'est pas lié à, le directeur de la centrale de TEPCO d'ailleurs est mort d'un cancer, mais non, ça n'a rien à voir avec Fukushima, c'est un pur hasard. Mais vous voyez, il y a cette... C'est un mirage qu'on voit. On croit que, mais en fait non, c'est radioactif, c'est extrêmement dangereux. Et sur Terre, hormis quelques espèces de bactéries, tous les êtres vivants sont affectés par la radioactivité, bien évidemment, animaux comme végétaux.
Même la radioactivité naturelle du radon semble-t-il...
Si vous avez des grosses concentrations.
Voilà, dans les endroits où il y en a beaucoup, peuvent être peut-être responsables de certains cancers. Anders Moller, comment justement... D'abord, est-ce que vous avez une idée sur la motivation de ce documentaire? On va ensuite arrêter d'en parler, mais il est quand même frappant qu'un documentaire diffusé en France sur Arte soit, semble-t-il... aussi loin de la réalité.
Cet documentaire a été produit avec le soutien du CNRS, et quand ils ont détecté, il y avait des séquences non avec une origine de Allemagne et pas de...
Tournée ailleurs, oui.
Oui. Et le CNRS avait retenu leur support pour cet documentaire. Et donc c'est peut-être le... l'évidence plus claire est que ça ne marche pas. On ne peut pas faire qu'est-ce qu'on veut quand on est en train de produire un documentaire. Il y a des limites quelque part.
Alors, ce qui est ennuyeux quand même, quand on visionne ce documentaire, c'est que le propos semble soutenu par un assez grand nombre de personnes qui sont mentionnées comme étant des scientifiques.
Oui, c'est vrai, mais comme j'ai dit...
Américain, russe...
Tout à fait. Mais c'est aussi intéressant, par exemple, le professeur Baker, qui était dans le documentaire, il a récemment trouvé des résultats chez les souris sauvages, démontrant qu'il y a une forte augmentation de taux de mutation. Ces petits bestioles, et donc c'est pas le cas que tout va bien. Et c'est aussi plutôt une question de ouverture des yeux. Et si on ferme les yeux, on voit rien, c'est évident. Et c'est aussi le cas pour les chercheurs. Et ce que j'ai fait avec mon collègue américain Tim Mousseau pendant les dernières 15 ans, c'est d'essayer de trouver est-ce qu'il y a vraiment des effets ou pas? Est-ce que c'est le cas que les animaux, les plantes, les bactéries et les autres micro-organismes ont une bonne santé dans les sites contaminés? C'est pas du tout le cas.
Et vous avez déjà des résultats sur le taux, justement, l'impact sur le règne vivant?
Oui, en fait, nous avons publié beaucoup des travaux scientifiques dans les journaux scientifiques internationaux. Et donc, c'est vraiment à les autres chercheurs ou la population en large de regarder ou décider qu'est-ce qu'ils pensent de ces évidences-là. Si on regarde les animaux sauvages, les petites souris par exemple, qui sont assez proches à l'homme par rapport à séquences ADN, etc. Et beaucoup des effets qu'on trouve, par exemple en termes des fréquences des cataractes, en termes de baisse de la taille du cerveau, en termes des fréquences des tumeurs, c'est quelque chose très étonnant. Et on ne voit pas les choses comme ça d'ailleurs, sauf à Fukushima aussi. Et c'est ça le but. Il y a c'est très très facile de voir des choses si on veut. Si on ferme les yeux, on ne voit rien. C'est aussi clair.
Yves Lenoir.
Oui, pour aller un tout petit peu plus loin, je me souviens d'avoir demandé au professeur Pierre Pellerin, que tout le monde connaît en France, parce qu'il aimait à se montrer, si vous voulez, et dans un cadre interministériel, donc un cadre officiel.
Là, on parle de l'après 86,
oui,
et du fameux nuage.
Mais c'est juste pour pour appuyer ce que vient de dire Anders. Je lui ai demandé à la fin d'une réunion de travail, est-ce que vous avez fait des études statistiques sur l'état de santé de la population et des travailleurs qui sont exposés aux radiations en France, au CEA, à EDF, etc. Il m'a regardé avec un air, avec l'air de penser que j'étais complètement fou. Il m'a dit, mais pourquoi chercher? On ne trouvera rien. Donc, ils ont gardé les yeux fermés, eux.
Galia Kerman.
Je voudrais juste ajouter une chose. On a maintenant 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, 5 ans de Fukushima. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu une autre grande catastrophe nucléaire qui s'est produite il y a à peu près 60 ans sur le combinat chimique qui s'appelle Mayak dans l'Oural. Et en fait, c'est une énorme usine pour produire du plutonium militaire. Donc, il y avait déjà des rejets de radionuclides extrêmement virulents, si l'on peut dire, dans la rivière adjacente de 48 à 52. Et ensuite, en 57, il y a eu une sorte de Tchernobyl qui s'est produit à Mayak. Donc là, on a un recul de 60 ans. Et on voit aujourd'hui qu'il y a la troisième génération déjà qui naît, il y a beaucoup d'enfants qui naissent avec soit des défauts génétiques, soit avec des pathologies, comme par exemple des enfants qui développent à l'âge de 5-6 ans le cirrhose du foie. Donc, je crois que malheureusement, plus le temps passera et plus on y verra clair dans les conséquences, justement, génétiques à long terme.
Yannick Monger.
Oui, je voulais dire que déjà sur Fukushima, on a déjà eu des publications scientifiques qui prouvent qu'on a vraiment un impact. Ça a été publié. La chercheuse japonaise qui avait fait ça, d'ailleurs, est décédée là début janvier parce qu'elle refusait en fait que ses étudiants aillent sur le terrain à sa place, à y aller. Elle savait qu'elle tombait malade un peu plus à chaque fois qu'elle y allait. Elle est décédée en début d'année, mais elle a eu le temps de publier. Il y a eu des publications officielles scientifiques qui prouvent qu'il y a effectivement, au niveau de notamment des insectes, etc., déjà des preuves concrètes qu'il y a une vraie impact des radioactivités.
Alors peut-être à ce stade, Anders Møller, faut-il expliquer quelle est l'action de la radioactivité sur les cellules vivantes, qu'il s'agisse d'ailleurs de celles des plantes, des animaux ou des hommes.
Oui, la radioactivité peut casser l'ADN et les séquences d'ADN. Et si c'est pas réparé, ça donne un changement des séquences avec les conséquences négatives pour cet être vivant. Ça peut être transmis à la descendance si c'est quelque chose qui se passe dans les spermatozoïdes ou dans les œufs. Et il y a beaucoup d'études faites sur les effets de radiation sur la qualité des spermatozoïdes, aussi chez les pollens dans les fleurs des plantes, où la fréquence des anomalies augmente avec le taux de radiation. Et donc c'est clair que si les spermatozoïdes et les pollens sont endommagés, ils ne produisent pas et des enfants ou des descendances. Et donc, on peut avoir des conséquences à long terme parce que s'il y a des changements des séquences d'ADN, c'est transmis d'une génération à l'autre.
Alors, ce qui se passe, c'est que donc, il y a quand même des processus, des procédés de réparation de l'ADN qui sont à l'œuvre.
Tout à fait.
Mais qui n'excluent pas certaines erreurs dans la réparation.
Chez tout le monde, il y a des mécanismes de réparation. Et chez nous aussi, mais il y a des limites à l'efficacité de cet mécanisme. Il y a un autre mécanisme très important, c'est les effets des antioxydants. Qui joue un rôle dans la réparation d'ADN aussi. Et c'est un autre résultat récurrent dans la recherche à Tchernobyl, aussi à Fukushima. Les êtres vivants ont des taux des antioxydants très très faibles par rapport à les individus témoins d'un autre site. Et donc, il y a une surexploitation de ces antioxydants dans les zones contaminées.
C'est pareil, surexploitation par l'organisme pour se défendre contre les radiations.
Et c'est aussi le cas chez l'homme. Il y a plusieurs études faites à Tchernobyl démontrant que le taux des antioxydants est très très faible.
Alors, il y a une théorie qui laisse entendre qu'à faible dose, les radiations peuvent avoir un effet positif. Yves Lenoir, vous en parlez dans votre livre. On appelle ça, vous allez me rappeler le nom...
En grec, c'est l'hormésis.
Voilà, l'hormésis, et qui donc part du principe que l'organisme peut se fortifier en étant exposé à de très faibles doses de radioactivité, par exemple, et ensuite être plus à même, grâce à cet effet préalable, à résister à des fortes radiations.
L'hormésis radioactive, bon, il faut la baser historiquement. Elle a été, entre guillemets, découverte par un physicien américain qui s'était spécialisé dans le traitement des cancers au Memorial Hospital de New York, Gioacchino Faya, c'était un immigré sicilien. Et en 1920-21, il a mené une série d'expériences avec des rats, 9 échantillons, deux ou trois rats, qu'il exposait à des pastilles de radium posées sur la cage au-dessus de leur tête ou de leur dos. Et il a trouvé que dans une de ces boîtes, les deux rats qui étaient là avaient grossi un peu plus vite que les autres et avaient vécu un tout petit peu plus longtemps. C'est quelques pourcents, n'est-ce pas? La dose qu'il leur administrait s'est révélée être 7% de la dose de celle qui tuait des voisins plus exposés. Il en a déduit que donc finalement, et toute sa vie il a montré qu'il ne craignait pas pour l'humanité les effets des faibles doses, il en a déduit qu'une exposition à ce type de dose était bonne. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il a été l'un des premiers présidents de la Commission internationale de protection radiologique, et qu'il a été, après la guerre, le responsable d'une publication qui a été au fondement de la philosophie de la radioprotection pour les gouvernements américains, anglais et canadiens. Et ça, c'est une histoire importante, parce que l'hormésis médical des radiations était défendu par le président du comité de radioprotection d'EDF en 1974 devant le groupe interministériel auquel je participais. Il a montré, il a dit, ça c'est la bonne exposition, c'est celle qui fait vivre plus longtemps.
Yannick Monger, c'est présent dans votre livre, l'hormésis?
Dans le livre, en fait, effectivement, il y a deux histoires, parce que j'ai voulu jouer sur justement l'avant-l'après. Donc, en fait, on suit les 100 derniers jours de notre société, de notre civilisation, avant qu'il y ait cet accident majeur. Et en parallèle, on suit les survivants 2 ans après l'accident. Et effectivement, moi j'aime bien jouer avec cet avant-après, c'est-à-dire à un moment on entend les politiques qui disent « mais non, on risque rien, même s'il y a un accident, ça sera limité, etc. » Et après, hop, on rebondit dans le chapitre suivant et on montre vraiment ce qui se passe, en m'inspirant encore une fois de ce qui s'est vraiment passé, on parlait de Mayak, mais aussi surtout Fukushima où j'ai des amis, ou Tchernobyl, et de montrer le décalage énorme qu'il y a entre ces discours-là, qui sont là pour rassurer, voilà, et puis pour soutenir l'industrie nucléaire, en fait, qui va à sa perte. Disons-le clairement, quand on voit l'état d'EDF, voilà. Et donc, il y a ce soutien avec ces discours qui sont qui paraissent totalement fous et décalés par rapport à ce qu'on observe réellement, les malades, les gens qui meurent, qui là sont la réalité.
Galia Kerman, comment ça se passe en Russie, peut-être au-delà de la zone de Tchernobyl? Est-ce que l'accident a un impact sur la population, sur la perception par la population du danger nucléaire?
Je crois que la population est très mal informée dans tous les trois pays qui sont lourdement concernés par la catastrophe, à savoir la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie. Il n'y a pas de vrai travail pour expliquer à la population même les dangers, le mode de comportement, etc. En Biélorussie, il y avait ces tentatives pendant plusieurs années de l'institut du professeur Nesterenko, dont j'ai déjà parlé, d'inculquer une certaine culture et aussi d'essayer d'aider les populations, notamment en administrant de la pectine qui est capable d'absorber et déconduire les radionucléides. Mais c'est peut-être seulement vraiment une aide à grande échelle internationale avec la concertation des pouvoirs publics dans chaque pays qui peut donner des résultats. Maintenant, ce qu'on observe quand on va dans ces zones, c'est que une grande partie des enfants dans tous les trois pays, dans les zones concernées, n'est pas en bonne santé. Il y a peut-être 80% d'enfants qui sont ralentis, souvent malades, qui n'ont pas assez d'immunité, qui développent toutes sortes de pathologies cardiaques, oculaires, etc. Et donc, on sait, il suffit d'y aller pour comprendre que le mal est présent. Et le mécanisme de ce mal, en fait, il est très simple. Il y a deux éléments essentiels qui passent à l'homme via la chaîne alimentaire, soit directement des plantes, soit par l'intermédiaire des animaux que l'homme mange. C'est le césium-137 et strontium-90 qui se logent dans les muscles et dans les os. Et donc, vous créez, si vous consommez en permanence la nourriture, même contaminée très faiblement, mais si vous la consommez pendant des années, il se produit l'accumulation de ces sources de contamination interne, d'irradiation interne. Vous portez en vous un mini réacteur. Et bien sûr, ça engendre des pathologies.
Alors Anders Moller, ce sont les deux composants qui restent aujourd'hui très présents, le césium et le strontium, même 30 ans après la catastrophe de Tchernobyl, les trouve dans le sol.
En fait, c'est pas complètement vrai, parce qu'il y a aussi une quantité significative de plutonium qui est très très dangereux.
Mais ça, c'est essentiellement à Pripyat et autour de la centrale.
Oui, oui, oui.
C'est pas dans le reste des zones contaminées.
Oui, c'est pas complètement vrai non plus. Et dans les cartes publiées en 2011, il y a des bonnes indications. Il y a plein d'autres sites contaminés avec le plutonium. Mais le chose plus importante pour continuer cette discussion sur les chaînes alimentaires, c'est que en Ukraine, Bélarus, Russie, entre juillet et décembre, la plupart des gens dans la campagne mangent des baies et des champignons tous les jours. Et ils sont fortement contaminés grâce à cette bioaccumulation. Et c'est pas quelque chose qui reste en Bélarus ou en Ukraine. À Paris, dans le marché à Rosséville, où j'habite, j'ai trouvé des chanterelles d'origine biélorusse et j'ai acheté un petit sac et puis j'ai mesuré. C'était aussi fortement contaminé. Donc c'est des choses qui, bien sûr, il y a des contrôles pour importation de la nourriture en France et d'ailleurs aussi, mais on peut pas contrôler tout ce qui passe autour des frontières.
Yannick Monger.
Oui, alors sur l'impact sanitaire, il y a quand même un petit indice qui devrait faire réfléchir tout le monde, notamment en France, c'est que depuis l'ère post Tchernobyl, le médicament le plus prescrit, vous pouvez le demander à vos pharmaciens, c'est ceux pour la thyroïde dans toute la France. C'est vraiment le médicament qui est plus prescrit ici. Et l'autre point sur lequel je voudrais juste appuyer...
Vous suggérez que donc c'est une des conséquences du passage du nuage sur la France ?
Ça serait un gros hasard qu'il n'y ait aucun lien. Parce que vraiment, les dates coïncident.
Je voulais rajouter à ce sujet. Vous savez qu'aux États-Unis, il y a eu une centaine de tirs atmosphériques dans le Nevada. Et on s'arrangeait pour que le vent souffle vers l'est. Et quand vous regardez la carte de la contamination par les retombées, pratiquement, effectivement, à l'est des Rocheuses, tout est touché. Et c'est exactement la même situation. Le Levothyrox est le médicament le plus vendu aux États-Unis.
Mais une chose. Science publique. Michel Albert-Gonti.
Je vous rappelle que nous débattons la question catastrophe nucléaire. La nature peut-elle survivre aux radiations avec nos invités Galia Kerman, historienne, journaliste et spécialiste du monde russe et ex-soviétique, Yves Lenoir, ingénieur, président de l'association Enfants de Tchernobyl, Biélorusse, Anders Möller, chercheur au CNRS, spécialisé sur l'impact écologique des accidents de Tchernobyl et de Fukushima, et Yannick Monger, président fondateur du groupe Symbiome, prospectiviste, spécialiste de la crise bioclimatique, qui voulait d'ailleurs intervenir dans la discussion.
Oui, non, je voulais juste dire une dernière chose, c'est sur Tchernobyl, on ne célèbre pas, c'est pas la célébration à la mémoire de la catastrophe de Tchernobyl, mais du début de la catastrophe de Tchernobyl. La catastrophe de Tchernobyl, c'est pas un événement qui s'est passé il y a 30 ans et qui s'est terminé.
Mais c'est l'accident de Tchernobyl. Voilà. Celui-là
mais
est quand même
voilà,
daté.
Il y a eu l'accident, mais qui est un début, un commencement. Il faut bien que les gens comprennent que cet accident, finalement, enfin, la catastrophe est toujours en cours, qu'elle le sera encore pour des dizaines, des centaines de milliers d'années. Ça, le public n'arrive pas, et les politiques encore moins. Ceux qui sont habitués à réfléchir à l'échéance électorale à l'échelle de 5 ans, aller leur parler de centaines de milliers d'années, ils n'arrivent pas à se le représenter. Mais c'est bien de ça dont on parle. On est en train de vivre cette catastrophe, elle est toujours en cours. Les maladies, elles sont là. Et effectivement, dans les descendances, on disait tout à l'heure, elles sont même dans les nouvelles générations, en fait, qui naissent aujourd'hui. Les enfants, des fois, sont même encore plus atteints que les générations précédentes. Ça, je pense que vous l'avez observé d'ailleurs, même au niveau de Tchernobyl.
Galia Kerman, c'est le cas ?
C'est le cas, et c'est surtout visible quand vous visitez des hôpitaux d'enfants, par exemple, parce que les premières années, c'est vrai qu'il y avait plus de mutations visibles. Les enfants qui sont nés vraiment dans l'année, première, deuxième année après Tchernobyl, il y avait beaucoup de cas de pathologies très lourdes, de petits monstres même qui étaient nés. Maintenant, on n'a plus cette monstruosité, mais ce sont des enfants malades qui continuent de naître.
Yves Lenoir.
Oui, à ce sujet, notre association, évidemment, suit ces choses-là de près. Et moi, je suis assez enclin à penser que ce qu'a observé Rosa Goncharova sur 22 générations de campagnols roussâtres, hein, dans les zones plus ou moins contaminées, c'est effectivement une instabilité génomique qui augmente de génération en génération et qui peut expliquer un affaiblissement général de l'organisme qui est plus fort à la génération suivante qu'à la génération antérieure, comme elle l'a observé. À ce moment-là, vous avez des enfants dont le système immunitaire est fragilisé.
Est-ce que ça, Anders Möller, c'est possible, cette aggravation au fil des générations de l'impact initial de la radiation, des radiations sur l'ADN ?
Tout à fait. Le problème est que tout le monde pense que c'est comme chez nous, mais la durée de notre génération, ça fait environ 30 ans. Et chez les petits souris ou les petits oiseaux, ça fait un an et demi ou quelque chose. Et chez les bactéries, ça fait quelques minutes. Et donc, les conséquences à long terme, c'est qu'est-ce qu'on peut voir chez les espèces avec une durée de vie très courte. Et pas chez l'homme. Ce qu'on peut attendre pour l'homme, c'est et quelque chose qui va commencer de passer après la prochaine génération.
Et sur, les souris, justement, qu'est-ce qu'on peut en déduire ? C'est-à-dire, comme les générations sont plus courtes, on a donc plus de recul ?
Oui, les maladies directement transmissibles, ils passent beaucoup plus vite à travers des générations que chez l'homme, par exemple, où ça dure 30 ans. Et donc, il faut attendre beaucoup des années pour avoir des conséquences à long terme.
Mais est-ce qu'il peut y avoir une aggravation de ce qui est transmis ?
Tout à fait, parce que les mutations dans les gamètes, dans les spermatozoïdes et les œufs, ils ont transmis à la prochaine génération. Et c'est quelque chose qui s'accumule d'une génération à l'autre.
Yves Lenoir.
Ce qu'a noté Rosa Goncharova, que déjà Hermann Müller, le découvreur de l'effet des radiations sur la génétique, c'est que il n'y a pas que les mutations de l'ADN. Il y a aussi ce qu'on appelle l'instabilité génomique, c'est-à-dire les aberrations. Lorsque une cellule se divise, les chromosomes ne se remettent pas en place correctement. Ça s'appelle l'instabilité génomique. Et ce qu'a noté cette chercheuse, Rosa Goncharova, à l'Académie des sciences de Minsk, en prenant des campagnols qui étaient dans la lignée des campagnols exposés, en les emmenant en laboratoire, en les nourrissant avec de la nourriture propre, et en testant le fœtus par rapport à la mère, eh bien le taux d'aberration chromosomique était plus élevé chez le fœtus que chez la mère, alors que les conditions étaient saines.
Oui, Galia Carmen.
Oui, j'ai aussi vu les photos qui ont été faites par justement l'équipe de l'académicien ukrainien Grodzinski que j'ai déjà mentionné et qui montrait par exemple l'instabilité du génome du blé parce que ils ont un champ où pendant plusieurs années ils cultivent le blé et tous les ans il y a des variations différentes qui apparaissent parfois même avec la régression vers un blé sauvage qui poussait dans l'Antiquité. C'est-à-dire que ces aberrations ne sont absolument pas programmables à l'avance. On ne sait pas ce que ça va donner.
Et ça se produit dans quelle région ?
Dans la zone interdite.
Dans la zone interdite, toujours.
De Tchernobyl.
Et on cultive du blé dans la zone interdite aujourd'hui ?
Non, mais on cultive dans des buts scientifiques.
C'est, ah, voilà,
c'est juste un terrain, c'est une expérience qu'on continue d'une année à l'autre de semer, de récolter et de voir ce qu'on récolte. Et tous les ans, c'est autre chose.
Yannick Monger, est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, à partir de tout ce qu'on vient de dire là, autour de cette table, d'information du public, quand même, qui est patent en matière de nucléaire ?
Clairement, mais moi j'étais peut-être pas encore né, mais j'ai vu après des publicités qui existent depuis des années où EDF entre autres vantait justement le nucléaire, la radioactivité. On l'a fait à plein de niveaux, on l'a fait aussi au niveau de l'armée, on disait que les radioactivités, etc., ça avait des bonnes retombées. Il y a un embrigadement intellectuel, c'est qui est utilisé, qu'on utilise dans la publicité, que les régimes dictatoriaux utilisent. Ce sont les mêmes mécanismes finalement. Qu'on utilise pour embrigader intellectuellement. Et du coup, on en arrive à faire croire à des gens des choses totalement farfelues. L'histoire de la fameuse frontière avec nos super douaniers qui arrivent à arrêter, par exemple...
Le nuage de Tchernobyl dont parlait.
Il y a quand même une
Yves
époque
Lenoir,
où vraiment, il y en a qui croyaient ça. Voilà. De la même façon, aujourd'hui, vous avez des gens qui croient vraiment que si un avion se crache sur une centrale, elle va y résister. Je veux bien voir un A380 qui se crache sur une centrale, ça m'étonnerait. Les gens vraiment baignent dans un... tissu de mensonges, ça c'est une réalité, mais est-ce qu'ils veulent le croire ? Je sais pas, d'un point de vue, il faudrait voir avec des psychologues, est-ce qu'ils veulent le croire ? Est-ce que ça les rassure ? Parce qu'ils se disent c'est tellement affreux. Moi, ce que je vois, c'est que effectivement, la catastrophe, pour moi, le nucléaire, de toutes les menaces que j'ai étudiées, réchauffement climatique et autres, le nucléaire est la pire d'entre toutes. Je pense réellement que c'est ce qui menace l'humanité aujourd'hui. C'est aggravé par des phénomènes comme le réchauffement climatique, d'ailleurs, parce que si vous avez des périodes de canicule, par exemple, avec une baisse, effectivement, d'alimentation en eau, des cours d'eau, ou simplement une température plus chaude, des niveaux d'eau, comment vous faites pour refroidir une centrale ?
On l'a vu en 2003 que ça posait
déjà
des problèmes.
On l'a vu en 99. Quand vous avez eu quand même, il faut que les gens savent, en 99, pendant que nous, on avait tous les yeux tournés vers les dégâts de la tempête, à Blayé, quand même près de Bordeaux, Alain Juppé, il l'a dit à Yann Arthus-Bertrand, d'ailleurs, on avait reparlé lors d'une discussion, il avait reçu un appel qui disait « Mais monsieur le maire, il faut vous préparer peut-être à évacuer Bordeaux. On a un problème à Blayé. Blayé, on a une chance incroyable. » Incroyable, on aurait pu avoir un Fukushima à Blayé. On a eu vraiment les conditions qu'on a retrouvées sur Fukushima. On n'a pas eu de tremblement de terre, mais ça n'empêche pas. On n'a pas besoin d'un tremblement de terre.
La tempête même pas va suffire.
Et oui, on n'a pas besoin de terrorisme et tout pour avoir un accident chez nous. Nos centrales sont vieillissantes, dans un état lamentable. On a des problèmes partout.
Anders Moller, est-ce que, par rapport aux travaux que vous faites, est-ce que vous avez l'impression que ce que vous accumulez comme... informations sur le Tchernobyl et sur Fukushima. Est-ce que ça, est-ce que c'est transmis au grand public? Est-ce que vous avez la sensation donc que vos travaux sont connus et sont relayés?
Bien sûr, en Europe, mais aussi au Japon. Chaque fois qu'on publie quelque chose, ça passe toujours à les journalistes et ils sont preneurs tous. Et donc, ça rentre dans les journaux le lendemain.
Et malgré tout, il semblerait qu'en France, par exemple, le grand public ne soit pas très sensibilisé au danger du nucléaire. Comment vous l'expliquez ?
Oui, mais même les journalistes ne peuvent pas expliquer tout ça à tout le monde. C'est la conclusion, je crois. Mais c'est aussi ce problème que c'est quelque chose qui se passe d'ailleurs, c'est pas chez nous. Et c'est une attitude très très dangereuse parce que en Europe, si on regarde les effets, même aujourd'hui, à Uppsala, à Stockholm, en Suède, on jette environ un quart des chevreuils chassés parce que leur taux de contamination est trop élevé. C'est pareil pour une
dizaine. Le nuage de Tchernobyl est allé très fortement dans ces régions.
En Laponie, même aujourd'hui, il y a 10 à 20% des rennes qui sont jetés parce qu'ils sont trop contaminés. C'est pareil en Autriche avec les sangliers et les cerfs. En Italie du Nord, il y a une grande région où c'est très difficile de chasser les sangliers parce qu'ils sont tous contaminés.
Yannick Monger.
Oui, on pense toujours à l'impact effectivement des discours des grands industriels et des politiques. Mais j'ai remarqué une chose en écrivant justement Résilience, et je suis désolé par avance pour tous mes amis auteurs, réalisateurs, producteurs, scénaristes. On a aussi notre part de responsabilité. On a fait rentrer dans l'état d'esprit des gens qu'il était possible de vivre après des catastrophes nucléaires. Je me suis rendu compte en écrivant Résilience que finalement tous les scénarios de fiction scientifique, d'anticipation qu'on a écrit, ne tiennent pas la route. On a fait l'impasse nucléaire. Quel que soit le scénario que vous allez prendre, les scénarios les plus connus, les films, les livres qu'on a plus connus, vous avez de Pierre Boulle avec La planète des singes en passant par Terminator ou tout ça, vous voyez les gens survivre alors que le monde s'est effondré. On n'a jamais pris en considération, sur Terminator, on a une guerre atomique et en plus une destruction de la société. Sur le dernier grand film, par exemple, Contamination, avec toutes ces stars, Marion Cotillard et autres, on voit la société s'effondrer à cause d'un virus biologique. Mais les personnes qui sont dans les centrales nucléaires vont aussi tomber malades, les personnes dans l'armée, les services de santé, etc. Tous les scénarios, on a fait l'impasse là-dessus. Et on fait croire, et d'où d'ailleurs l'évolution, l'explosion du survivalisme au niveau mondial, on fait croire que si demain la société venait à s'effondrer, on pourrait continuer à vivre et à rebâtir notre société. C'est faux. Si on prend le nucléaire, on ne peut pas vivre après une catastrophe majeure nucléaire.
Anders Møller, après. Non.
Récemment, il y avait une publication écrite par un chercheur américain, Lilienfeld. Ce qu'il avait dit en conclusion de cette étude sur la durée de vie des stations nucléaires, c'est que nous avons eu la chance avec Tchernobyl et Fukushima parce qu'il y a seulement 5 à 10 000 millions de personnes qui sont affectées par ces accidents-là.
Pardon, 5 à 10 000, vous dites ?
Millions de gens qui sont impliqués parce qu'ils habitent dans les zones contaminées. Si on regarde la distribution des réacteurs partout dans le monde, et la distribution des populations dans le monde, on peut attendre pour le prochain accident peut-être 50 millions des gens impliqués.
Yves Lenoir.
Ce qui me permet d'embrayer avec la remarque que le directeur de l'ASN a faite récemment, qui est de dire, l'autorité de sûreté nucléaire, clairement, est en train de gagner en autorité. On le sent, hein. Leur indépendance, il commence à la préserver farouchement. Et le directeur, donc, a reconnu qu'un accident grave était possible en France.
Voilà, c'était en décembre 2015. Oui. Et sans c'est Alain Delmestre.
Oui. Et sans pour autant recommander d'arrêter l'exploitation de l'énergie atomique. Ce qui semble indiquer qu'il croit les rapports de l'ONU sur les conséquences d'un accident atomique. C'est-à-dire qu'il croit, comme le dit le rapport sur Tchernobyl, qu'il n'y aura pas beaucoup de morts et pas beaucoup de conséquences. Et c'est ça qui est grave. C'est qu'ils ont une vision totalement fausse de l'effet des radiations à cause des rapports qui font autorité.
Alors après Fukushima, il faut rappeler justement à ce sujet qu'il a été dit par certains experts que ce qui a fait le plus de morts à Fukushima, c'est le déplacement des populations de la zone d'exclusion. Parce que les personnes âgées, etc., qui étaient sous traitement, ont été un peu malmenées. Et donc, on a eu plus de décès du fait du déplacement que ceux qui se seraient produits à cause des radiations, si on les avait laissées chez elle. Galia Ackermann.
C'est exactement ce qui s'est produit aussi à Tchernobyl. Il ne faut pas oublier que quand on évacue des dizaines ou des centaines de milliers de personnes...
200 000, je crois.
Quelque chose comme ça. Rien que la zone interdite, c'est 130 000. Et il y a encore des dizaines de milliers des zones lourdement contaminées qui ont été aussi relogées. Ça produit un énorme stress parce que les gens sont brutalement arrachés à leur habitat. Ils perdent leur profession, ils perdent leur lien de famille. Et ce stress est aussi une cause de décès. Mais ce que je voudrais quand même souligner, c'est que la zone autour de la centrale de Tchernobyl, et même toutes les zones contaminées, ne sont pas pour la plupart des zones lourdement peuplées. Ce sont essentiellement des zones rurales. Il y a peu de villes relativement, et ce ne sont pas des grandes villes qui ont été lourdement...
Kiev n'est pas très 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 loin.
Kiev est à 100 km, mais Kiev a été beaucoup moins touché quand même que, disons, Pripyat ou même la ville de Tchernobyl. Mais le problème, c'est que nous, en France, on vit dans une densité de population beaucoup plus importante, et que je sache, il n'y a strictement rien de prévu, ou alors c'est tenu complètement secret et confidentiel, de ce qu'il adviendra des populations civiles si demain il y a un accident. Je voudrais bien rencontrer une seule personne qui sache ce qu'il faut faire, qui sache où chercher sa pastille d'iode et comment se comporter dans cette situation, qui est prévue d'avoir un stock de provisions, ne pas sortir de chez elle, avoir du iode à sa disposition, etc. Rien de tel. Et je pense que vous-même, est-ce que vous savez où chercher votre iode, dans quelle pharmacie?
Non, pas particulièrement. Il me semblerait que même les habitants de la zone autour des 10 km des centrales nucléaires en France n'aient pas toutes suivi les exercices qui sont recommandés. Et Yannick Monger, il y a quand même une différence très forte entre la position qu'on observe en Allemagne.
Oui.
Et la France, oui, face justement au dernier épisode de ces accidents qui est Fukushima.
Il n'y a pas que l'Allemagne. Il y a plusieurs pays qui ont évolué vraiment sur ces questions-là, qui s'inquiètent vraiment de la question du nucléaire. On a la Suisse, on l'a entendu récemment, puisqu'il y a un dépôt de plainte d'ailleurs, parce que Genève se trouve vraiment menacée par nos centrales. La Suisse qui a décidé de fermer, ils ont la plus vieille centrale sur leur sol. Et c'est normal, parce que si vous avez un problème, un accident à Fessenheim ou à Cattenom, clairement un accident à Cattenom, le Luxembourg est rayé de la surface de la carte. Donc on peut comprendre que ces pays frontaliers considèrent que c'est une mise en danger. Et d'ailleurs, l'Allemagne, on a considéré que si vous avez un accident majeur en France, Cattenom par exemple, ou Fessenheim, les dégâts qui seront provoqués pour l'Allemagne sont l'équivalent d'une grande guerre.
Très bien, malheureusement, c'est sur ces mots qui ne sont pas forcément très optimistes que nous devons achever ce débat. Merci à Galia Ackermann, Yves Lenoir, Anders Moller et Yannick Monger d'avoir participé à cette émission. Sur notre site, vous pouvez trouver les références des ouvrages écrits par nos invités. Donc, je vous rappelle rapidement les titres: Traversée de Tchernobyl de Galia Ackermann, La comédie atomique, l'histoire occultée des dangers des radiations d'Yves Lenoir et Résilience de Yannick Monger. Vous trouverez également un lien avec le documentaire qui fait polémique dont on a parlé en début d'émission, qui s'appelle Tchernobyl, une histoire naturelle, réalisé par Luc Riolon. Enfin, toujours sur notre site, vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant 1 an, bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Science Publique. Donc je n'ai pas le temps de vous parler de vendredi 29 avril, Science Publique, Dany Journeau, Jean-Frédérix, Marie Dalquier et Michel Albergantier.